Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatouages.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission. On avait dit sérieux, les filles,
là. Si vous
en êtes sûrs, avec nous, ça dirait la pétition.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, à l'émission Les Entonnoirs, émission numéro 291. Aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Sébastien Vidal. Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Et Marion qui est une habituée maintenant. Un petit bonjour, peut-être, Marion.
Bonjour.
Voilà, donc on interviewera Sébastien un peu plus tard. Il va parler plus longuement de lui et de son œuvre. Alors, pour commencer, on aura la musique de Margot, un titre de Michael Jackson qui s'appelle Beat It. Ensuite viendra le fameux interview de Sébastien Vidal que tout le monde attend. Puis nous enchaînerons avec le poème de Bruno. Bruno, à quoi trait ton poème ?
Ben, c'est pas très gai aujourd'hui, c'est morbide, c'est au sujet de la mort. Bah oui, pas parce que la vie existe en fonction de la mort et vice versa. Eh oui, et ça s'appelle Le Temps.
D'accord. Grande histoire, quoi.
Avec le temps, on va tout savoir, comme dirait Léo Ferret.
C'est vrai, ouais. Ensuite, viendra la musique de Fred, qui s'appelle Gonzalez. Puis, nous enchaînerons avec la parenthèse de Rosé Lucien. Ensuite, viendra la musique de Margot, une musique de Jean-Michel Jarre, qui s'appelle Rendez-vous. Puis, la chronique de Margot au sujet du sport. Ensuite, nous enchaînerons avec la chronique sport de Florent. Puis viendra la météo de Patrick, ensuite une musique de Brahim, dont l'auteur est François Feldman. Alors maintenant, nous allons commencer, chers auditeurs, chères auditrices, avec un morceau de musique de Margot, Beat It, de Michael Jackson, peut-être jingle.
Allez, viens. Bienvenue dans le coffre à vinyle.
Alors Margot, tu veux nous en parler ou un peu plus tard ?
Oui, donc c'est un titre de 1982, donc extrait de l'album Thriller. Là. Donc voilà, donc on va écouter Beat It. We'll
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Eh bien, merci pour ce très beau morceau de musique, Marco. Alors, je voudrais apporter une rectification. Alors, mea culpa, ce n'est pas Sébastien Vial. De toute façon, les auditeurs auront compris. C'est Sébastien Vial. C'est ça.
Ouais.
Ok, donc Bruno, maintenant, nous allons passer à l'interview de Sébastien Vial, c'est ça?
Oui, Sébastien Vial, bonjour, soyez donc bienvenue aux Entonnoirs. Et si, en quelques mots, vous pouvez vous présenter.
Oui, bah, bonjour. Donc, écoutez, moi, je suis plasticien, scénographe. Je travaille aussi un petit peu comme performeur sur des spectacles. Voilà, et aujourd'hui, en fait, je viens vous voir par rapport à une exposition, une installation qui va ouvrir bientôt à la condition publique, qui ouvre en fait le mardi 12 dans la salle de la Verrière, qu'on présente donc avec un collectif qui s'appelle France Distraction.
Et quel est le titre de votre exposition ?
Donc, c'est Les Termes de France Distraction.
Alors, pourquoi avoir choisi cette symbolique, Les Termes cette symbolique, on sait très bien que les anciens, les Grecs et les Romains allaient dans des termes pour passer du bon moment, pour se relaxer, etc. Les termes, il faut le rappeler, ce sont des bains, c'est ça, ce sont des bains publics. Hein,
oui, voilà. Bah, en fait, on a vraiment rejoué cette chose-là, hein, puisque ce qu'on présente ici, le spectateur peut en fait entrer dans la salle de la Verrière, dans la salle des dessicateurs de la condition publique. Et on lui propose d'abord d'enlever un petit peu ses chaussures, d'enlever ses effets personnels et de se diriger dans une sorte de grande piscine où il va pouvoir se baigner. Mais là, c'est pas vraiment dans de l'eau puisque c'est dans des boules, puisque c'est une sorte de grande piscine à balles. Voilà, donc c'est vraiment des thermes aussi où on peut venir se relaxer et un petit peu réfléchir.
Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as fait une école d'art, hein? Est-ce que tu as appris pas tout seul, par toi-même, ou est-ce que tu as fait une école d'art?
Alors moi, j'ai fait la fac d'art plastique. J'étais en fac.
Ça rigole plus.
Ça rigole plus. Hein.
Avant l'émission, j'avais dit un peu d'humour. Donc il y aurait des boules noires, je crois, par rapport au bain. Et donc, si on est Marseillais, c'est que c'est comme à la pétanque, c'est des boules et on va droit au but avec.
Ah, ça serait pas mal d'arriver à aller droit au but, mais en même temps, ces boules, elles nous invitent un peu à réfléchir. C'est assez difficile d'aller directement vers ce qui est proposé sur ces boules, hein, puisqu'en fait, il y a des messages qui nous sont donnés et qui sont plutôt là pour nous faire passer un moment de réflexion assez tranquille, d'arriver petit à petit à réussir à les comprendre, en fait. Mais...
D'accord. Mais je crois qu'il y a des moments pour aller droit au but, il faut passer par la réflexion.
Ouais, ah, peut-être bien, oui.
Et donc, voilà, merci.
Margot,
Pourquoi des boules noires?
Ah oui, alors c'est vrai que généralement les piscines à balles, c'est plutôt boule rouge, boule verte, boule jaune. Donc on voulait détourner un peu cet objet-là. Alors pourquoi noir? Bah parce que en fait c'était donc ça, on propose une sorte de bain de moralité, puisque sur ces boules il y a des messages qui nous sont donnés qui sont pour la plupart des préceptes stoïciens. Donc c'était une manière en fait de casser le ludique de l'objet, le caractère ludique, pour montrer aussi que ça va être un objet où on va pouvoir, comme je disais, prendre du temps pour lire, pour réfléchir. Et puis il y a des choses aussi très sombres qui sont données des fois sur ces messages. Donc ça nous semblait intéressant de casser le côté joyeux de l'objet.
Stoïcien, il faudrait expliquer ce que c'est que stoïcien, si vous pouvez expliquer derrière toi.
Oui, alors vraiment sans être spécialiste du tout de philosophie,
oui.
Grosso modo, c'est une école philosophique qui s'est mise en place, je crois c'était moins 300, grosso modo, avant Jésus-Christ.
Oui, je crois qu'elle a été inventée par les Grecs, mais elle a été plutôt mise en place par les stoïques, c'était plutôt les Romains qui étaient stoïques.
Oui, il y a eu beaucoup de Romains.
Donc résistance partout, par l'adversité de la vie, quoi. C'est résiste à tout prix, quoi, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Et puis en fait, ça continue même. On peut retrouver ça jusque Descartes, par exemple. Il y a vraiment des grands fondements.
Je ne sais pas.
Des stoïciens qu'on peut retrouver chez Descartes. Voilà, les stoïciens. Pour résumer, on peut dire que c'est une morale, une éthique aussi. C'est une manière d'essayer de mener sa vie. Qui passerait par une régulation des passions, grosso modo, pour arriver à ce qui, pour eux, peut être le bonheur ou le plaisir, qui serait ce qu'ils appellent une forme d'ataraxie, qui serait en fait un moment où on n'aurait plus de... en fait, on arriverait à réguler ses passions pour rester dans une sorte de caractère assez raisonnable et trouver du bonheur dans les choses raisonnables, quoi, grosso modo.
D'accord. C'est...
Roger Lucien.
Oui. Vous avez énuméré un certain nombre de fonctions. Parmi toutes ces fonctions que je qualifierais de métier, y en a-t-il une qui vous occupe plus de temps que d'autres, que les autres, et pour quelle raison?
C'est un peu tout le même métier, en fait. Hein. Je travaille autour de projets artistiques. Pour moi, ça a toujours été lié. C'est-à-dire que je suis à la fois plasticien, peintre, illustrateur, je fais des sculptures, je travaille sur des scénographies. J'ai toujours un petit peu travaillé avec le spectacle vivant. Et du coup, pour moi, c'est très lié. Il n'y a pas de distinction entre tout ça. Et du coup, mon temps, c'est difficile à dire, mais je le partage un petit peu entre tout ça, quoi. Entre des projets collectifs aussi et des projets individuels. Mais tout ça est complètement lié.
Margot.
Pourquoi une piscine artificielle ?
Alors, il y avait plusieurs raisons. Déjà, forcément, elle est artificielle puisque c'est un décor, hein, c'est une sculpture. Après, c'est vrai qu'elle peut faire penser dans sa forme aux piscines privées, aux piscines domestiques. Elle peut faire penser à une piscine hors sol qu'on aurait dans une villa un peu cossue comme ça. Elle était forcément artificielle de toute façon.
C'est aussi un signe extérieur de richesse, avoir une piscine. Pour montrer que c'est un signe extérieur de richesse, peut-être la piscine, pour faire pour faire un petit peu de caricature ou je ne sais quoi, peut-être contre la luxure, peut-être il y a quelque non.
Oui, alors. Bon, c'est un objet qui nous semblait assez amusant, assez répandu hein, déjà, hein, ces piscines là dans les jardins, etc. Et puis aussi, nous, c'était assez lié également au monde de l'entreprise. Alors là, ça peut paraître plus surprenant. En fait, grosso modo, on avait deux gros pôles qui nous ont intéressés dans la création de ce projet. Il y avait tout ce qui était de l'ordre du forain, de l'attraction. Voilà, on travaille aussi avec des châteaux gonflables, on travaille avec des objets qui invitent le spectateur à participer à l'œuvre, à toucher les choses, à décrocher des téléphones, à rentrer dans les piscines. Et puis, donc d'un côté le forain et de l'autre côté le monde du travail, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup dans les grosses entreprises le développement du team building. Du coaching qui passait souvent par le divertissement. Ça existe hein, dans certaines grosses entreprises, des piscines à balles, par exemple.
Au Japon, peut-être
Au Japon, aux États-Unis. Donc des piscines à balles pour que les équipes se divertissent et pour qu'il y ait comme ça une cohésion d'équipe. Nous, il y avait un petit peu ces deux choses-là qui se mélangeaient.
Rachid, peut-être ?
Non, c'est à Brahim avant. Brahim.
Pourquoi vous faites du spectacle avec le band BC?
C'était ça le. En fait, l'idée, elle est arrivée comme ça par rebond. Donc, on travaille à 5 sur ce projet. Et petit à petit, il y a tout un tas d'objets qui sont apparus qui venaient vraiment du forain. Et donc, la piscine, elle est arrivée comme ça. Et ensuite. Comme je vous disais, le lien entre ce côté forain, le côté team building d'entreprise et puis le côté piscine privée, effectivement, signe extérieur de richesse, etc. Tout ça, ça nous a intéressés. On trouvait qu'il y avait quelque chose là qui prenait du sens.
Rachid,
d'abord, Pierre Pristo.
Alors, deux petites questions. Vous faites partie d'un collectif. Peut-être qu'on va essayer de citer vos collègues qui travaillent avec vous. Je ne sais pas si vous pouvez les citer. Et deuxième question, sur les balles, il y a des inscriptions stoïciennes dessus. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes pour que les auditeurs se fassent une idée ? On m'a expliqué, mais c'est toujours mieux d'entendre.
Oui. Alors, on travaille à 5 avec Alory Goergé, Belinda Analoro, Antoine Defort, Julien Fournet et donc moi. Et voilà, et donc le projet collectif s'appelle France Distraction. Et donc sur ces balles, effectivement, comme je vous disais, il y a 75% de préceptes stoïciens qui sont tirés surtout de Pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Et on peut trouver plusieurs types de phrases. Alors oui, je vais vous en lire quelques-unes. Par exemple, « Tu n'es qu'une âme chétive qui soulève un cadavre ». Alors ça, ce seraient des phrases un petit peu qui vont un petit peu être de l'ordre du memento mori, de la nature morte, quoi, qui vont nous rappeler que toute chose a une finitude, même la vie, et qu'il faut profiter de la vie, mais il faut aussi se souvenir qu'il y a la mort. Et donc peut-être la présence de la mort peut aussi nous enseigner comment vivre. Il y a d'autres thèmes, comme par exemple, alors c'est très court, supporte. Donc là, il y a pas mal de boules qui sont là en fait pour nous dire qu'on se plaint constamment dans la vie et que peut-être on pourrait apprendre à voir les choses qui nous arrivent comme les éléments d'un tout. Hein, il y avait beaucoup de croyances en la destinée à l'époque. Et accepter ce qui nous arrive et trouver du plaisir dans ce qui nous arrive, même si ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Donc il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a beaucoup de phrases aussi qui poussent à l'ascétisme. Et aussi au fait de ne pas se vanter d'être un ascétique, un ascète. Par exemple, vis comme sur une montagne, ou, histoire de ne pas se vanter, si tu bois de l'eau, ne dis pas à tout propos que tu bois de l'eau.
Qu'est-ce qu'un ascète ?
Oui, ben voilà, c'est quelqu'un qui va essayer de réguler ses passions et peut-être de s'éloigner de toutes les envies ou de tout ce qui peut être créé par la société autour de nous et matériel. Prendre un peu de recul.
Notamment par le matériel, je crois. Ouais. Le matériel.
Florent.
Est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il existe entre l'épicurisme et le stoïcisme ? Est-ce que tu connais la différence ?
Waouh. Ouais.
Je pense que l'épicurisme, c'est le profiter des plaisirs de la vie, mais après, je sais pas. J'ai appris ça un peu à l'école. Mais bon.
Ouais, en tout cas, maintenant, c'est vrai qu'on pense beaucoup à ça quand on dit l'épicurisme, c'est profiter du jour présent, profiter des plaisirs, etc.
Être bon vivant.
Voilà. Mais en fait, à l'époque, l'épicurisme, c'était pas vraiment ça non plus. Alors après, la distinction précise, moi, je suis vraiment pas du tout spécialiste de tout ça, mais il y avait aussi cette notion de finitude et de régulation des passions, en fait, dans l'épicurisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'épicurisme, c'est profite de l'instant présent.
Oui. Et puis ce qu'on sait pas, c'est que il y a une différence aussi entre épicurisme et hédonisme. L'hédonisme, c'est le plaisir de la vie à partir des sens, donc notamment de la chair au départ, pour ce qui est corporel, physique. Alors que l'épicurisme, c'est le plaisir certes, mais moral au départ. Et je crois que d'ailleurs les philosophes épicuriens au départ rejetaient le plaisir de la chair. Enfin, faudrait vérifier. Enfin, voilà quoi. Mais il est évident qu'avec avec le temps, l'épicurisme, ça a pris un sens large, plus souple.
Mais par rapport à votre œuvre, par rapport aux termes, les termes, on voit aussi que vous faites une allusion au monde de l'enfance, parce que la piscine, c'est le monde de l'enfance, les enfants qui prennent le bain, l'été, etc., où on y va tous, tout ça. Et est-ce que le monde de l'enfance vous a touché, vous a inspiré peut-être votre enfance, ou je ne sais quoi, un moment, un souvenir peut-être, c'est très freudien, quoi.
Ben, je sais pas, souvenir personnel, non, mais en tout cas, je crois que oui, l'enfance, il y a ça aussi dans le forain, ce truc de l'amusement, quoi, de se lâcher complètement, et ce qu'on voulait, nous, c'était proposer une expérience un peu duelle, le spectateur, et c'est ce qui se passe, hein, les gens, quand ils arrivent dans la piscine, donc il y a une ambiance plutôt feutrée, comme ça, intimiste, et ils vont avoir assez vite tendance à faire les fous, à se lancer des balles, à s'amuser. Et donc, on voulait justement jouer de cette rencontre entre cet instant où on s'amuse, où on se laisse aller, et en même temps, quand on commence à regarder, qu'on commence un petit peu à réfléchir, au contraire, on rentre dans une attitude plus posée, quoi.
Mais vous cinq, quand vous êtes-vous connus ? Vous êtes-vous connus quand ?
Bon, on est amis, en fait, depuis pas mal de temps.
Ok.
Eh bien, on vous remercie. On est très content de vous avoir reçu. Vous revenez quand vous voulez.
Maintenant, Bruno, nous allons passer à ton fameux poème.
Oui, j'ai voulu prendre un vieux poème parce que, bah, écoutez, il y a des bonnes choses dans la vieillerie aussi, quoi. Il date du mardi 31 juillet 2001, tiré de l'album Dans les brouillards torrides, et le titre, il parle malheureusement d'une chose qui existe, paraît-il, c'est la mort. Et il s'intitule Le temps. Le temps, ivre de mort, délivre doucement, brutalement, ses lois de la démence, comme dans ces étés torrides où suffoque ce qu'il s'apprête à sacrifier, extraordinaire dans sa banalité. Venez, venez, se plaît-il à marmonner, lugubre avec ses manières de faire, quand il emmène un à un des destins dans le tournis vertigineux de la fin. Naissez, naissez, être futur qui arrivait, poursuit-il avisé. Vous croîtrez, puis déclinerez dans sa nonchalance, lui le temps qui, par caprice, vous engloutira invisible et inexorable, vous faisant sombrer dans le néant à l'effacement intégral. Vivez, vivez, vous, braves gens, enchaîne-t-il encore, et sachez l'oublier rien qu'un instant, lui le temps, rengaine de macabre justicier, lequel ne s'arrête jamais, comme avec cet enfant, qui courant à l'improviste, en riant au milieu d'une rue, se fait faucher par un faux chauffard pour la joie d'un ballon qu'il ne récupérera jamais. Enfin, mourez, mourez, vous qui avez existé, quand à travers moi il ose exprimer. Je suis le temps qui soudain exécute, toujours aussi généreux dans sa méchanceté et totalement incontrôlable quand il a décidé de vous tuer.
Eh bien, on te remercie, Bruno. Je voudrais revenir à Sébastien Vial. Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'on peut venir visiter votre exposition ? On est peut-être passé outre.
Donc, c'est ouvert du mardi 12 jusqu'au 20. C'est ouvert toute la journée, de 14h à 18h. C'est gratuit. Et à noter, il y a trois soirs organisés par la condition publique, où on aura plutôt des lectures de textes, et puis il y a une soirée débat organisée aussi le mardi 12.
Mardi 12, d'accord. Donc demain, alors ?
Oui.
Demain. Alors, venez nombreux. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter
sur les différents moments de lecture. Effectivement, il y en a un demain soir, mardi 12, sur la laïcité. Et ensuite, il y aura une lecture le vendredi 15 sur un texte de Valère Novarina. Et ensuite, il y aura encore une autre lecture le 20 février pour clore donc la lecture d'une sortie de résidence d'une compagnie qui s'appelle l'équipe Pâquerette, qu'on aura peut-être l'occasion d'entendre ici aussi un petit peu plus tard, enfin voilà, à voir ensemble.
Et on aura l'occasion de vous voir ici, Sébastien, vous serez là de toute façon pendant les expositions
Moi je vais être là vendredi,
d'accord. Ok, ben voilà pour l'information, et puis venez nombreux à l'exposition Les Termes de Sébastien Vial.
Vous allez voir un tabac.
Allez, maintenant nous allons passer à la parenthèse de Roger Lucien. Non, nous allons passer à la musique de Fred. Fred, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, bonjour à tous. Pour rester en cohérence avec l'esprit de l'émission du jour, je vais vous passer un morceau qu'il s'agit d'écouter stoïquement. C'est un pianiste qui s'appelle Gonzalez, que j'ai découvert il y a quelques jours. Une amie m'a prêté son album qui s'appelle Solo Piano. Et je vais vous passer la première piste qui s'intitule Gogol. Je pense qu'il fait référence à l'écrivain russe Nicolas Gogol, qui a écrit le journal d'un fou, il me semble. Voilà. Thank you.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Ben, écoutez, maintenant, on va passer à la parenthèse de Roger Lucien avec notre invité qui quitte la table. On le remercie encore parce qu'il doit faire des choses. Ben, c'est la vie, c'est chacun a sa vie. Et Roger Lucien, la parenthèse, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ?
La parenthèse du jour avec Roger Lucien.
Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous lire deux articles de journaux tirés d'un hebdomadaire d'information internationale qu'on appelle Les Afriques. Donc, je commence par le premier. MTN lance portable solaire. Comeka Redisette est le nouveau téléphone portable à batterie rechargeable par énergie solaire que l'opérateur MTN vient de lancer au Rwanda. Bon, pour nos auditeurs, en fait, MTN est un opérateur de téléphonie mobile sud-africain qui est présent dans plusieurs pays du continent et ailleurs aussi. Et donc, cet article m'a interpellé parce qu'en fait, nous connaissons beaucoup en Afrique et même ailleurs des délestages, c'est-à-dire des endroits où qui ne sont pas alimentés en électricité parce qu'il y a... On ne produit pas suffisamment d'électricité, donc parfois il y a des coupures, et donc c'est ça un délestage. Et donc le téléphone rechargeable par grâce à l'énergie solaire est pour moi une idée vraiment superbe, parce que les gens peuvent se servir du téléphone même en cas de délestage. Et donc, comme on sait qu'un téléphone peut sauver une vie en appelant, par exemple, un médecin, en ayant, par exemple, les conseils d'un secouriste, de toute personne compétente pour sauver une vie, quoi, par téléphone, éventuellement même un conseil pour l'usage d'un médicament. C'est pour ça que je tenais absolument à lire cet article. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez ici autour de cette table.
Rachid.
Donc on a quand même dans l'idée que tout le monde a l'électricité, nous, dans notre petit monde européen, et on ne réfléchit pas plus loin. Et puis, et même les capitalistes, hein, vu que c'est juste l'Afrique du Sud qui a commencé à le développer. Et il peut avoir peur, ne serait-ce que de penser à mettre du solaire sur les téléphones. Ne pas y penser, c'est quand même con, quoi.
Mais... L'eau. L'énergie éolienne, est-ce qu'elle peut accompagner l'énergie solaire ou pas ? C'est pas possible. Parce que l'énergie éolienne, ça fait provoque des l'électricité.
Bon, là, c'est...
Bon, je sais pas, vas-y, dis-moi.
Bon, là, c'est pas vraiment le thème. Puisque moi, je parle plutôt du téléphone à énergie solaire, donc...
Et les
avantages qu'il nous apporte.
Ben, moi, ce que je trouve admirable, c'est que ça soit une entreprise de... africaine, sud-africaine, qui a décroché le marché et qui a lancé cet appareil, et je trouve que c'est un bon point pour l'Afrique, parce que même l'Afrique est capable de faire des exploits technologiques incroyables, hein. Il faut le souligner aussi, hein. L'Afrique est en plein développement, Oui.
Oui, je crois que, par exemple, il se passe, l'Afrique est très, très, comment dire, très discrète en ce moment, surtout l'Afrique noire. Mais j'ai l'impression que, moi, je renifle bien pour l'Afrique. Excuse-moi, est-ce que je me trompe, Roger Lucien?
J'ai pas compris.
Je renifle bien pour les peuples africains. Dans le sens où, j'ai espoir pour eux, quoi. Parce que je crois que, comment dire, l'Afrique, comment dire, sort de comment dire, du sort infernal qui lui était réservé. Qu'en penses-tu grâce à sa propre énergie, au départ.
Grâce à...
À sa propre énergie au départ.
Oui, je suis d'accord avec toi. Oui.
Et surtout qu'on ne montrera jamais de soleil en Afrique, donc ces téléphones auront assez d'énergie pour le reste de la vie entière, quoi. Le soleil, c'est un grand potentiel en Afrique, c'est une énergie qu'on peut développer, qu'on peut développer plus aussi, mais cette invention pour le téléphone à énergie solaire, c'est pas mal, hein. Florent.
Ouais, mais quand je parlais de l'éolienne, c'est une énergie passive. Et là, l'énergie solaire, c'est passif. Ça veut dire que c'est un parallèle entre les deux pour montrer que c'est Pour expliquer, c'est de l'énergie passive aussi. Oui.
Bah, en fait, ce sont deux énergies renouvelables. Mais le problème, c'est que... Bon, je sais pas comment tu veux faire fonctionner un téléphone portable avec de l'énergie éolienne.
Oui, moi j'ai l'impression, je vais sortir une connerie, mais j'ai l'impression que pour le téléphone à énergie solaire, il faut y connaître un rayon.
Oui. Merci Bruno. Brahim a une réaction.
Moi, ce qui a créé, c'est Louis XIV a créé l'électricité et avec le soleil, il tape pour créer le soleil, il tape sur des verres et ça donne de l'énergie pour avoir un nouveau portable ou soit une énergie pour le satellite. Voilà.
Ouais, bah on l'appelait aussi le roi soleil. Hein.
Oui.
Bon, je ne sais pas s'il y a encore des réactions, mais je suis quand même étonné par le peu de réactions d'infirmiers et d'infirmières. Parce que j'ai parlé de médicaments, enfin j'ai parlé de soins médicaux, donc j'aurais pensé qu'il y aurait peut-être plus de réactions de leur part, mais bon.
Mais ils ne connaissent pas les infirmiers ici, il n'y a pas le soleil à Roubaix, comment vous dites.
Bon, donc on va peut-être passer à l'article suivant, le deuxième et dernier article que j'ai relevé. Afrique du Sud, Patrice Motsepe répond à Bill Gates. Le milliardaire sud-africain qui pèse 2 milliards 65 millions de dollars dans le classement Forbes a déclaré qu'il donnera la moitié de sa fortune à une fondation caritative. L'enfant de Soweto répond ainsi à l'appel lancé par Bill Gates et Warren Buffett, deux milliardaires américains qui ont décidé de se délester de leur manne au profit des pauvres. Ce second article m'interpelle aussi parce que pour devenir riche dans la vie, je pense qu'il faut plusieurs facteurs. Il faut la chance, il faut les relations et il faut peut-être une idée de génie. Et je pense que la combinaison de ces trois facteurs n'est pas toujours évidente pour tout un chacun. Et surtout que certaines personnes sont issues de milieux défavorisés, ont parfois peut-être même été discriminées en raison de leur couleur de peau, en raison de leur religion. Et je pense que partant de là, on n'a pas les mêmes chances à la naissance, selon moi, pour les raisons que je viens d'évoquer, selon l'endroit où on est. Et je pense que l'idée de ce milliardaire sud-africain qui a fait un don très important aux pauvres et qui a suivi quelque part l'exemple de deux milliardaires américains philanthropes et qui, par ce geste, a fait preuve de lui-même de philanthropisme. Je ne sais pas si c'est
philanthropie,
ça.
Philanthropie.
De philanthropie. Et je pense que son initiative est à saluer. Et donc, je ne sais pas si son geste vous interpelle.
Moi, ça me fait un truc, comment dire, pour les gens très riches, par exemple, c'est pas le fait de gagner du pognon qui fait que quelqu'un qui est dangereux. C'est comment dire, c'est le fait que comment il y a c'est le mécanisme de la hiérarchie et qui fait que quand tu as du gain du pognon, tu es en haut de la hiérarchie sociale, bah oui, c'est le cas de le dire, et que finalement, des gens réfléchissent et utilisent le fait qu'ils sont en haut de la hiérarchie pour faire des trucs plus ou moins négatifs ou positifs. Bon, et moi, ce qui m'énerve par rapport au pognon, c'est par rapport à l'actualité en France, c'est taxer les riches, taxer les riches. Moi, j'en ai ras-le-bol. Moi, il y a un mec que j'ai applaudi, c'est Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Kassovitz.
La haine.
Oui, la haine, oui. Il a dit, moi, je gagne du pognon, mais si c'est pour donner aux conneries, bah non, je ne veux pas le donner, et il a raison.
Mais Rosilucien, est-ce que tu ne penses pas que c'est un coup publicitaire pour s'afficher, pour se faire voir comme des humanistes, qu'ils ont fait ça pour dire, voilà, nous, on pense aux autres, on est altruistes, on pense aux autres. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un bon coup publicitaire pour leur renommée internationale?
Moi, je pense que c'est un geste qu'il faut saluer, parce que je pense que ce milliardaire sud-africain est un enfant de Soweto. Bon, j'ai eu l'occasion de me rendre à Soweto. L'actuel Soweto n'est pas le Soweto d'il y a 20 ans. Il y a eu beaucoup d'investissements du régime actuel. On a amélioré beaucoup la vie des habitants de Soweto. Il y avait une grande misère sociale. Et je pense que cette forte somme va contribuer à combattre cette grande misère sociale qu'on retrouve dans les townships. C'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle les bidonvilles. Et pour être précise, il n'y a pas d'équivalent de township ailleurs dans le monde. C'est une appellation typiquement sud-africaine qui est née de l'apartheid et qui n'a pas disparu malgré la fin de l'apartheid. Et donc, cet argent améliore considérablement la misère sociale dans ces townships.
Mais avant d'être un coup humanitaire, est-ce que tu ne penses pas que c'est un coup publicitaire pour ces 3 milliardaires ?
Non, moi je pense que... Je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a quand même un important contrôle, notamment, enfin, pour le cas de ce milliardaire sud-africain, il y a un contrôle de l'utilisation de ces fonds. Et même si c'est quelque part un petit coup publicitaire, cet argent va forcément servir parce que moi, je connais un petit peu la réalité des townships sud-africains parce que j'ai eu l'occasion de me renseigner. Je sais ce que c'est que la misère sociale dans les townships et je sais vraiment ce que c'est qu'être pauvre parce que j'ai lu sur la pauvreté.
Rachid ?
Moi, je pense que c'est un don, hein, un don généreux et qu'il n'y a pas lieu de penser qu'il y a un regard publicitaire derrière. Et puis, même s'il y a un regard publicitaire, si les gens accèdent un peu plus à ce que vend quelqu'un qui a donné de l'argent, ça fait pas plus de mal. Et s'il y a encore de l'argent, peut-être qu'ils vont en redonner. Donc, ça me dérange pas du tout.
Fred ?
Oui, moi, je voudrais réagir à ce que tu as dit, Tahar, là, par rapport à ce soupçon sur cette générosité. Moi, c'est une remarque que quelqu'un que je connais très bien m'a fait il n'y a pas très longtemps par rapport à ça, en disant oui, ces milliardaires américains qui disent qu'ils donnent autant, ceci, cela.
Pourquoi
ça, je suis sûr
que
c'est pour gagner encore plus. Bon. Moi, j'ai quand même répondu à cette personne que j'aime beaucoup. Bill Gates a donné la moitié de sa fortune. Alors, je ne sais plus combien de dizaines de milliards ça représente, à une fondation qui est à son nom, certes, c'est Microsoft, etc. Bon, c'est pour faire des bonnes actions un peu partout dans le monde sous diverses formes. Voilà, apporter des ordinateurs dans des écoles, etc., etc. Il n'y a pas que ça. Bon, Bill Gates est à la fin de sa carrière. Il est mondialement connu. Il est richissime. Je vois pas ce qu'il a à gagner de plus en donnant la moitié d'une fortune accumulée tout au long d'une vie. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est de la pure générosité. Et je peux pas en douter, quoi.
Enfin, c'est peut-être pour se donner bonne conscience.
Peut-être.
En fin de carrière, peut-être.
Oui, peut-être. Mais on peut toujours saluer le geste parce que moi, je préfère des gens qui, à la fin, cherchent à peut-être se donner bonne conscience, mais n'empêche, donnent une bonne partie de leur fortune. Et je pense qu'il faut toujours saluer le geste.
C'est vrai, c'est un geste à saluer absolument.
Même si ça n'en finit pas pour autant avec le débat sur l'inégalité de la répartition des richesses.
D'accord.
Oui,
on va
finir là. Je terminerai avec Bill Gates. Il va falloir qu'on grille quand même Bill Gates. Parce que Gates, ça veut dire gris en anglais, je crois. C'était ma connerie, j'ai fait un poème par rapport à ça. Oui, c'est ma connerie, voilà quoi. Donc, il est grillé, voilà
raté,
quoi.
Maintenant, nous allons passer à la musique de Marco qui va nous présenter.
Oui, donc c'est Jean-Michel Jarre, c'est un titre de 1986. Donc voilà.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Eh bien, on te remercie, Margot, pour ce très beau morceau de musique qui nous a rappelé des souvenirs. Et je me souviens que Jean-Michel Jarre avait fait un très, très grand concert à Paris. Et ouais, ça s'est bien passé. C'était un grand concert. Hein. C'est...
Ouais.
Justement, pour le 14 juillet, il avait fait quelque chose.
Il a fait un truc immense.
Il a fait un truc immense. Mmh. Hein. Mmh. Alors maintenant, nous allons passer à ta chronique santé, Margot, où tu vas nous parler de sport.
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Oui, je parlais du sport. Donc, le sport est souvent une thérapie et tient une place de première ordre dans l'hygiène de vie, à tout âge. Toutefois, ces pratiques exigent une alimentation et une hydratation adaptées, un sérieux échauffement, un encadrement par un professionnel, un coach sportif, pour éviter les mauvaises attitudes à tenir, c'est-à-dire problèmes de musculaire. On peut se faire des choses en faisant du sport qu'il faut faire attention. Donc bien faire attention, ainsi que la tenue, parce que la tenue est très importante dans le sport, surtout les baskets. Quand on court, il faut des baskets adaptées. Parce que pour les pieds, c'est pas pratique. Il faut vraiment des baskets adaptées, quoi. Donc et votre pour votre genre de sport, quoi. Et aussi, il faut aussi donc boire beaucoup après chaque effort de quand on court, il faut boire régulièrement. Donc les entonnoirs, est-ce que vous faites du sport?
Je voulais savoir, Margot.
Oui.
Est-ce qu'on peut prendre des vitamines? Avant de faire du sport, qu'est-ce que tu en penses?
On peut prendre des jaunes d'œufs, ça c'est possible.
Et vous les infirmiers, Anna, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut prendre des vitamines avant de faire du sport? La vitamine C par exemple.
Bah, juste avant de faire du sport, je vois pas trop l'utilité. Maintenant, si t'en prends au quotidien et que tu as une alimentation équilibrée avec des fruits et des légumes, c'est correct.
Roger Lucien.
Margot, pour répondre à ta question, moi, je ne fais pas du sport. Je ne fais pas du sport dans un club, mais j'ai quand même une activité qui me permet de me sentir physiquement bien. Sur mon lieu de travail, je marche beaucoup parce que je suis tout le temps en mouvement. Donc, si bien qu'en fin de semaine, j'ai l'impression d'avoir fait mon sport hebdomadaire, ma dose de sport hebdomadaire. Je ne ressens pas le besoin de décompresser. Donc, je me sens bien en fin de semaine, mais un peu fatigué, voilà.
Ouais, moi, je fais du tennis, mais à chaque fois que je fais un tournoi de tennis, je prends une tôle. ça ne m'écœure pas pour autant, mais bon, en même temps...
Rachid,
c'est un ancien grand footballeur de...
T'as pas quelque chose à dire?
Je sais pas le nom de l'équipe.
Ancien. non, sinon le sport, c'est bon pour la santé, t'as raison, Margot. C'est vrai que quand on a un travail physique, comme Roger et Lucien, ben, forcément, on a une dépense physique, et dans la vie, il faut équilibrer le physique et le passif. Mais quand on a un travail d'infirmier comme moi, on n'est pas trop en sueur à la fin de son travail. Hein. On a une facilité psychologique. Et le sport, c'est un moyen d'évacuer tout ça et de rétablir l'équilibre.
Et surtout, ayez une bonne hygiène de vie. Parce que moi, j'ai longtemps fumé la cigarette. Et ça peut jouer des tours, quoi, la cigarette, l'alcool et tout. Il faut éviter. Une bonne hygiène de vie.
Lucien ?
Non, moi, je voulais juste demander aux infirmiers, est-ce que mon activité est bonne pour ma santé, ou alors est-ce que c'est tout à fait normal que je ne ressente pas plus le besoin de faire d'en rajouter en fin de semaine une activité sportive?
Bah, je pense que ton activité est suffisante, hein. C'est pour ça que tu n'as pas envie de faire du sport en plus. Hein. Voilà, après il y a l'aspect ludique dans le sport. Là tu le retrouves peut-être pas, mais je pense que tu fais des choses plus intellectuelles, tu lis, tu fais d'autres choses, donc ce qui est normal.
Après, dans ton travail, il faut faire attention à tes postures aussi.
Non, en fait, je suis toujours debout dans mon travail. Jamais assis. Je suis jamais assis.
Moi j'ai parce que le football, il y avait du Nigeria, entre Mali, 2-1, il y a marqué 2-1, disqualifiés. Ils ont disqualifié, ils ont fait match nul.
D'accord.
J'rectifie, c'est Nigeria, Burkina Faso.
D'accord. Bien, on vous remercie pour cet éclairage. Alors maintenant, nous allons passer à Florent qui va nous présenter sa chronique sport.
Alors bonjour, chanteur, chanteuse, je suis de retour à l'antenne.
Il y a Florent qui m'a demandé un coup de main pour sa rubrique. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, il va vous présenter la Ligue 1, la 25e journée, qui aura lieu le 15, 16 et 17 février, et il va nous donner ses pronostics. Donc Florent, Lille-Rennes, qu'est-ce que tu vois, toi?
Alors Lille-Rennes, je veux bien 2 buts à 1 pour Lille, parce que Lille s'est imposé chez l'un des prétendants au titre qui est l'Olympique Lyonnais. Tandis que Rennes a battu son adversaire à domicile 2-0. Donc, l'exploit lillois, je pense que les Lillois devront s'imposer à domicile, devraient s'imposer assez logiquement.
Allez, le LOSC.
Mais vive.
Marseille-Valenciennes.
Marseille était en les trois premiers, et toujours dans les trois premiers d'ailleurs. Mais ils ont pris un point en deux matchs, donc un point sur six, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et Valenciennes reste sur une victoire à domicile contre une équipe de bas de tableau. Et donc je vois une victoire, un match nul entre Marseille et Valenciennes, voilà.
Montpellier-Nancy.
Montpellier reste sur une très grande défaite contre Saint-Étienne. Mais Montpellier se rapproche tout doucement de la cinquième place qualificative pour les préliminaires de l'Europa League. Et Nancy est partie des relégables, donc ils vont avoir du mal, quoi, pour gagner.
Toulouse 3,
alors bien qu'éliminés de la course à l'Europe, les Toulousains jouent à domicile, donc en principe ils devraient gagner pour moi 1-0. Et 3, bah, est mon dernier, donc 3 aura du mal de toute manière.
Brest-Ajaccio.
Brest est en bas de tableau, Ajaccio aussi, mais à la différence près, c'est qu'Ajaccio a battu deux équipes de haut de tableau, lors des dernières journées de haut de tableau. Voilà.
Bastia-Nice,
les Bastiens ont fait un match encourageant au Parc des Princes, qui est le leader actuel de la Ligue 1. Et Nice, comme Nice a fait un match nul à domicile, je veux 1-0 pour Bastia face à Nice.
Lorient-Evian.
Alors Lorient, c'est une équipe qui est partie du haut de tableau, qui est bien classée, et qui a cherché un point à Nice. Et comme Evian veut se sortir de la relégation, se sauver pour la relégation, je vois cette victoire là de Lorient.
Bordeaux-Lyon,
les deux équipes devraient se neutraliser parce qu'elles se valent.
Match nul
voilà, c'est ça.
Reims-Saint-Étienne
a emporté 4-1 lors de la 24e journée. Et comme Reims n'a pas eu de bons résultats ces derniers temps, je pense que Saint-Étienne devrait s'imposer à l'extérieur, oui.
Et Sochaux-Paris.
Sochaux-Paris, comme le PSG est ultra favori, je pense qu'il devrait aller s'imposer facilement à Sochaux, qui est dans le bas de tableau. Mais ce serait bien triste que Sochaux descende, parce que j'ai toujours bien aimé, donc avec bons joueurs, quoi.
Merci.
Tel que Idaï qui participait à la finale avec le Nigeria pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui a vu le Nigeria s'imposer sur un but magnifique de Mba contre le Burkina Faso. Merci.
2-1 me fait signe Brahim.
1-0.
Bon, merci Florent.
Merci Rachida.
Merci. Donc nous allons passer maintenant à la rubrique météo présentée par Patrick. Alors comment vois-tu notre ciel, Patrick?
Oui, bonjour chers auditeurs, chers auditrices. Vendredi 15 février, journée grise et humide. Température 2 degrés le matin, 9 l'après-midi. Samedi 16, nouvelle journée de temps frais et humide. Température entre 3 degrés le matin jusqu'à 8 l'après-midi. Dimanche 17, des pluies par-ci par-là, plus un peu de temps variable et un peu rafraîchi, température de 1 à 7 degrés. À partir du lundi 18, retour attendu du soleil avec un temps un peu plus froid et plus sec.
Merci Patrick.
Et maintenant, c'est le moment à Brahim. Brahim qui va nous présenter une musique, François Feldman.
Parce que François Feldman, il a fait un film, c'était Les Stars 80. Il a passé soit C'est toi qui m'as fait, ou soit Joue pas, ou soit
Passe de Vienne.
Voilà. Écoutez ça. Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. À la semaine prochaine.
À la prochaine.
À la fois prochaine.
J'aurais voulu te dire les signaux dans la nuit, les ombres où je me cache pour écouter la pluie. J'aurais voulu te dire mes rêves à venir, mais t'as voulu partir, alors je l'ai déchiré.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que j'ai une autre fille fou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête.
Et je lui appuie plus fort, c'est ça, les tatouages.